Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 12 juillet 2022, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Pour commencer, les titres. Le Mali considère les 49 militaires ivoiriens interpellés dimanche à l'aéroport de Bamako comme des mercenaires. En Ouganda, arrestation de manifestants protestants contre la hausse du coût de la vie. En Afrique du Sud, arrestation de deux individus après les fusillades meurtrières du week-end dans deux bars. En Tunisie, le Front du Salut réitère son appel au boycott du référendum constitutionnel prévu le 25 juillet par le président Kais Saied. Le président Joe Biden se dit déterminé à aller plus loin dans la régulation des armes à feu. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, arrêté dimanche à leur descente d'avion à l'aéroport de Bamako, 49 militaires ivoiriens ont été qualifiés de mercenaires par le gouvernement malien qui prévoit de les juger. Notre correspondant Mohamed Danioko nous donne des détails.
Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, a annoncé de manière solennelle à la télévision nationale la présence des 49 militaires ivoiriens sur le sol malien. Il les qualifie de mercenaires, assurant que leur dessein était de briser la dynamique de la refondation. Ces militaires sont venus, selon plusieurs sources, pour sécuriser la compagnie aérienne Sahelian Aviation Service. Le gouvernement a mis fin, avec effet immédiat, à l'activité de protection de la compagnie par les forces étrangères et exigé son départ immédiat du territoire malien. Avant le communiqué du gouvernement, dans un tweet, le directeur adjoint de la communication de la MINUSMA, Olivier Salgado, a affirmé que l'arrivée de ces militaires a été communiquée aux autorités maliennes. Mohamed Danioko, pour VOA Afrique, Bamako.
Mali toujours, un casque bleu sénégalais est mort et 10 autres ont été blessés dans un accident de la route de leur véhicule blindé de transport de troupes, a indiqué lundi le porte-parole de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. L'accident s'est produit près du village de Fiko, à environ 7 km au sud-est de Sévaré, dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, a précisé Olivier Salgado sur son compte Twitter. Tous les blessés ont été évacués du lieu de l'accident et sont soignés dans un hôpital de la MINUSMA, a-t-il ajouté. En Ouganda, la police a usé hier de gaz lacrymogène et arrêté une dizaine de manifestants contre la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants. L'inflation a plus que doublé, selon le gouvernement. Nanit Talani.
Des manifestants ont brûlé des pneus et bloqué une autoroute à Dinja, à environ 80 km à l'est de Kampala, pour demander au gouvernement de subventionner les produits alimentaires de base. Ils ont obligé les automobilistes à se joindre à eux pour appeler au changement. La police a utilisé une force minimale, y compris du gaz lacrymogène. 8 manifestants ont été arrêtés, a déclaré James Mubi, porte-parole de la police de la région, ajoutant qu'ils seront inculpés ce mardi d'incitation à la violence. L'Ouganda souffre d'un marasme économique exacerbé par le conflit russo-ukrainien. L'essence se vend à 7000 shillings le litre, soit deux fois plus qu'en février. Dans certaines régions reculées du pays, les stations-service vendent le litre de carburant jusqu'à 10 000 shillings. Le mécontentement ne cesse de croître face à la hausse des prix, mais le président Yoweri Museveni a ignoré à plusieurs reprises les appels à la réduction des impôts et à l'octroi de subventions, exhortant les citoyens à vivre frugalement.
En Afrique du Sud, le ministère de l'Intérieur a annoncé hier l'arrestation de deux individus après que des assaillants ont ouvert le feu sur la clientèle de deux bars dans la nuit de samedi à dimanche, tuant 19 personnes. Il s'agit d'une première étape, a-t-il dit, pour faire rendre des comptes à ceux qui ont organisé le week-end le plus meurtrier du pays. Le point avec Michel Joseph.
À Soweto, le Grand Township, près de Johannesburg, il y a eu 15 morts et à Pietermaritzburg, en pays Zoulou, dans l'Est, il y a eu 4 morts. Une porte-parole du ministère de l'Intérieur, Liranju Temba, a indiqué que les deux personnes arrêtées sont liées à la tuerie de Pietermaritzburg. La fusillade de Soweto aurait été commise par plusieurs tireurs armés de fusils d'assaut AK-47, selon les premiers éléments de l'enquête. Ces morts violentes sont inacceptables, a affirmé dimanche le président Cyril Ramaphosa. Il avait imputé mercredi au fléau de la consommation d'alcool chez les mineurs la mort de 21 personnes dans un autre township. Plusieurs jours après la découverte des corps des jeunes éparpillés dans la taverne d'Agno Beni, la cause de ces décès est toujours une énigme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a été transféré hier dans une base aérienne proche de l'aéroport international, alimentant l'hypothèse d'une fuite vers l'étranger. Il a fui son palais face à la colère de centaines de protestataires suite à la crise économique sans précédent que connaît son pays et dont il le juge en partie responsable. Le point avec Mohamedou Humfa.
Après avoir fui samedi le palais présidentiel assiégé par les manifestants, Gotabaya Rajapaksa a trouvé refuge dans des installations de la marine avant d'être amené à la base aérienne qui se trouve dans le même périmètre que le principal aéroport du pays, a confié un responsable de la défense. Le bureau de la présidence n'a pas communiqué sur la situation du chef de l'État, mais plusieurs médias locaux ont dit qu'il se prépare à partir en exil. Les agents de l'immigration ont refusé de se rendre dans la suite VIP pour tamponner son passeport et M. Rajapaksa refuse de passer par les espaces publics. Selon une source militaire, il reste le commandant en chef des forces armées et a toujours la possibilité de voyager dans un avion de l'armée de l'air. Le dirigeant de 73 ans s'était échappé samedi par une petite porte du palais présidentiel. Les manifestants occupent le palace depuis samedi et ont annoncé qu'ils ne vont pas vider les lieux avant sa démission. Le président sri-lankais a annoncé qu'il va démissionner demain mercredi pour permettre une transition pacifique.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'est dit hier déterminé à aller plus loin dans la lutte contre la violence par arme à feu et à interdire de nouveau la vente des fusils d'assaut qui, selon lui, ont transformé les États-Unis en champ de bataille. Le point avec Lionel Gahima.
Depuis la Maison-Blanche, le président américain s'est félicité du vote le mois dernier d'une loi visant à renforcer la régulation des armes à feu. Ce vote est intervenu après deux tueries qui ont choqué le pays. Un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique a tué fin mai 19 enfants et deux enseignantes dans une école primaire du Texas. Quelques jours auparavant, un militant suprémaciste blanc avait tué 10 personnes noires dans un supermarché de Buffalo dans l'État de New York. Joe Biden a appelé à rejeter ces fusillades à répétition dans les écoles, les lieux de culte, de travail, les magasins, dans les boîtes des nuits et tant d'autres lieux qui se sont transformés, selon lui, en champs de bataille. « Je suis déterminé à interdire ces armes ainsi que le chargeur de grande capacité à 30 cartouches », a-t-il déclaré. Il souhaite que la loi punisse les propriétaires d'armes qui ne vont pas les garder dans un coffre fermé à clé. Près de 400 millions d'armes à feu circulent dans ce pays, c'est plus que la population des États-Unis. Selon le site Gun Violence Archive, qui inclut les suicides de plus de 23 000 personnes, ont été tuées par armes à feu rien que depuis le début de cette année.
L'Iran va livrer des centaines de drones, dont des appareils de combat, dans un délai très court à la Russie qui piétine face à la résistance de l'armée ukrainienne dans l'est du pays. C'est ce qu'a affirmé lundi Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Les drones ont joué un rôle important depuis le début de l'invasion russe, le 24 février. Pour les opérations de reconnaissance, les tirs de missiles ou les largages de bombes. États-Unis, des centaines de pompiers combattaient lundi un violent feu de forêt qui menace les emblématiques séquoias géants du prestigieux parc de Yosemite dans le nord de la Californie. L'une des équipes prépare le Grizzly Giant, 64 mètres, le séquoia géant le plus célèbre et le plus spectaculaire du parc, à l'approche des flammes, en l'arrosant en permanence. La Minute Éco, Nani Talani.
La République démocratique du Congo prévoit d'étendre son principal poste frontière avec la Zambie afin de réduire les files d'attente de camions pouvant atteindre 60 km auxquels les mineurs de cuivre ont dû faire face cette année en raison de l'augmentation de la production et de l'insuffisance des infrastructures. Les longues files sont dues en partie à l'augmentation du trafic, selon le ministère des Mines. Le délai d'exécution, qui était d'environ 15 jours en 2019, a augmenté de 45 à 60 jours supplémentaires. Le Mali s'apprête enfin à relancer les exportations de coton et d'or avec la levée des sanctions de la CEDEAO. Les camions de coton qui étaient bloqués à Tingrela reprennent la route vers les ports de San Pedro et d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'Office ivoirien des chargeurs dit s'attendre à près de 200 camions transportant du coton vers les ports ivoiriens par semaine. Bamako s'est aussi engagé à honorer quelque 300 millions de dollars de remboursement de dettes en raison de sa coupure des marchés financiers régionaux et de la Banque centrale régionale. Pour terminer, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, met en garde contre la complaisance face aux problèmes de la dette mondiale. En marge du G20, elle a poussé la Chine et d'autres économies du G20 à accélérer l'allègement de la dette de certains pays émergents très endettés.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Plus de 10 joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur africain de l'année.
Oui, sur une préliste de 30 joueurs, la CAF a dévoilé la liste des 10 finalistes pour le titre de Ballon d'Or africain. Pas vraiment de surprise, le favori, le Sénégalais Sadio Mané, figure sur cette liste, tout comme son ancien coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah. Parmi les autres prétendants figurent Riyad Mahrez, le capitaine algérien et ailier de Manchester City, déjà sacré en 2016. Le gardien de but du Sénégal et de Chelsea, Edouard Mendy, tentera, lui, de devenir le premier gardien de but à soulever le trophée depuis le Marocain Ezaki Badou en 1986. Pour le titre d'équipe nationale de l'année, 5 pays sont en lice, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal, vainqueur de la CAN. La cérémonie de récompense aura lieu le 21 juillet à Rabat, au Maroc.
Transfert, Cheikh Doucouré quitte son équipe.
Le milieu de terrain malien de Lens s'est engagé pour 5 ans avec Crystal Palace, a annoncé le club de Première Ligue. Le montant du transfert est estimé à 23 millions d'euros par des médias britanniques. Né à Bamako et formé à l'Académie Jean-Marc Guillou au Mali, Cheikh Doucouré, 22 ans, avait rejoint le RC Lens en 2018. Il a disputé 131 matchs et marqué 8 buts sous le maillot sang et or et compte également 8 sélections avec les Aigles du Mali.
Football toujours, le championnat ukrainien va reprendre en août.
L'annonce a été faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Ukraine, Vadim Gudzik, qui précise que le championnat débutera le 23 août. Il a assuré que les matchs de la nouvelle saison se dérouleront sur le territoire ukrainien, mais sans spectateurs et dans le respect obligatoire des règles de sécurité décrétées. Les clubs de football ukrainiens avaient décidé le 26 avril de mettre fin de manière anticipée à la saison précédente, suspendue en février en raison de l'offensive russe, sans désigner de champion. Le Shakhtar Donetsk, leader du championnat, possédait 2 points d'avance sur le Dynamo Kiev lorsque les instances ukrainiennes ont décidé d'interrompre la saison.
Mondiaux d'athlétisme, la championne olympique du marathon déclare forfait.
La Kenyane Peres Jepchichir a annoncé son forfait pour les championnats du monde prévus en Eugénie, ici aux États-Unis, du 15 au 24 juillet à cause d'une blessure à la hanche. Championne olympique l'été dernier à Sapporo, la double championne du monde de semi-marathon faisait figure de favorite pour l'épreuve de 42 km aux mondiaux après sa victoire sur les prestigieux marathons de New York en 2021 et de Boston au printemps. Le Kenya pourra toujours s'appuyer sur la championne du monde en titre, Ruth Chepngetich.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, à 8 mois de la présidentielle, les discussions sont intenses sur le choix des candidats et leurs colistiers. Après le candidat du principal parti d'opposition, le PDP d'Atiku Abubakar, Bola Tinubu du parti au pouvoir APC a annoncé dimanche le nom de son colistier, l'ancien gouverneur de l'État de Borno, Kashim Ibrahim Shettima. Le point sur les 3 principaux candidats et leurs colistiers avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
L'élection présidentielle est prévue le 25 février prochain. Les 3 principaux candidats ont annoncé les noms de leurs colistiers. 29 ans après le ticket Mushud Abiola et Babagana Kinkibé, maintenant Bola Ahmed Tinubu ressuscite le ticket musulman. Il a choisi Kashim Ibrahim Shettima, un musulman du Nord, comme son colistier. Il donne les raisons de son choix.
Kashim Shettima.
J'ai choisi Kashim Shettima parce qu'il est compétent, fiable et capable d'être choisi comme colistier.
Le candidat du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, PDP, Atiku Abubakar, un musulman du Nord-Est, a choisi un gouverneur en fonction originaire du Sud, Ifeanyi Okova, actuel gouverneur de l'État du Delta. Le candidat du parti travailliste, riche homme d'affaires, Peter Obi, devenu une troisième force, a aussi choisi son colistier. Un économiste et fondateur de Baze University d'Abuja, un musulman du Nord, Youssouf Baba Ahmed. Kamilou est professeur de sciences politiques à l'université de Kano, dans le nord du Nigeria.
Le choix de Kashim Shettima, ancien gouverneur de l'État de Borno, comme colistier de Tinubu, est le résultat d'une pression politique et des calculs politiques. Cela fait aussi partie de la réalité politique.
Jusqu'ici, la scène politique nigériane était dominée par 2 grands partis qui sont l'APC au pouvoir et le PDP, la plus grande formation d'opposition. Mais l'émergence d'une troisième force menée par Peter Obi crée la surprise. Ousmane Mohamed est professeur de relations internationales à Baze University d'Abuja.
Nous avions vu les candidats de ces partis politiques et maintenant leurs colistiers. C'est une combinaison très amusante, mais l'histoire montre que les partis minoritaires n'ont jamais bénéficié du choix d'un seul candidat. Donc nous allons assister à des grands calculs politiques durant les opérations de vote.
Il y a une tradition non écrite entre les candidats chrétiens ou musulmans à la présidence du Nigeria, obligeant l'un des candidats à choisir son colistier dans d'autres régions, comme pour faire une sorte d'équilibre. Les réactions de certains Nigériens.
Lorsque vous regardez les combinaisons des autres candidats et vous comparez à celle de Bola Tinubu, un musulman du Sud, les mathématiques deviennent difficiles et il y a beaucoup de travail à faire. C'est aussi une question de chance. La probabilité pour gagner une élection est plus élevée avec le ticket composé d'un musulman et un musulman. Et surtout quand vous regardez la combinaison du principal parti d'opposition.
Le ticket musulman et musulman ou chrétien et chrétien n'est pas bon pour le pays en cette période. Tout parti politique qui n'a pas une politique basée sur la compréhension ou sur la promotion d'une cause commune et morale, ce parti n'est pas une formation politique, mais juste un complot pour accéder au pouvoir.
Le président du Nigeria est élu selon un système à 2 tours modifiés. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité des voix et plus de 25% des voix dans au moins 24 des 36 États de la Fédération. Si aucun candidat ne franchit ce seuil, un second tour est organisé pour décider qui sera le successeur au président Muhammadu Buhari, qui ne peut pas se représenter à la fin de son second et dernier mandat. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
La levée des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO est un soulagement pour des centaines de camionneurs maliens qui était bloqué à la frontière de la Côte d'Ivoire depuis janvier. Les frontières sont rouvertes avec le Mali, permettant à des dizaines de camionneurs de reprendre la route. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Avec une douzaine de collègues transporteurs de coton, le camionneur malien Ibrahima Sangaré attend à Tingrela, au poste de frontière de la Côte d'Ivoire. Ils sont les premiers à entrer en terre ivoirienne depuis que la CEDEAO a annoncé le 3 juillet la réouverture des frontières avec le Mali. Dès le 4 juillet, Sangaré et d'autres collègues ont rempli leur camion de balles de coton et ont commencé le voyage de 800 km depuis la ville malienne de Bougouni au port de San Pedro, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Après des mois coincés chez lui, incapable de subvenir aux besoins de sa famille, Ibrahima Sangaré est ravi de remettre le pied sur l'accélérateur.
C'est une bonne chose pour les transporteurs et tous les Maliens et puis les autres voisins aussi. Donc on travaille ensemble, donc s'il y a la sanction, on ne peut pas travailler. Donc ça rend le travail dur, quoi. Mais comme les sanctions sont déjà enlevées, donc on commence à travailler, bon, vraiment, on a la joie.
Un autre chauffeur de camion, Abdoulaye Traoré, se dit fier d'être l'un des premiers à faire le voyage après la levée des sanctions.
Avant les sanctions, le nombre de voyages qu'on fait et le moment que la sanction était tombée aussi, on n'arrive pas à avoir le même voyage. Moi, quand même, vraiment, je suis très heureux pour ça, pour la levée des sanctions.
Avec la réouverture des frontières, le Mali enclavé peut maintenant relancer ses exportations de coton et d'or. C'est aussi un soulagement pour les agents frontaliers ivoiriens qui subissaient la pression des camionneurs maliens. Séraphin Doué est un agent du bureau ivoirien des chargeurs.
C'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que nous souffrons, les camions maliens viennent, ils sont sur nous. Chef, faites un rempart. Bon, on ne peut pas venir forcer la frontière pendant que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a fermé. Maintenant, quand c'est ouvert, on les envoie. C'est ouvert. Quand on a appris la nouvelle, vraiment, on était content.
L'Office ivoirien des chargeurs, qui supervise le transport transfrontalier de marchandises, dit s'attendre chaque semaine à voir 150 à 200 camions transportant du coton malien vers les ports de San Pedro et d'Abidjan. Jacques Kouadio, directeur régional de l'Office ivoirien des chargeurs.
Les sanctions de la CEDEAO n'ont même pas permis que les camions puissent arriver ici, parce que le coton était vraiment touché par ces sanctions-là. Mais présentement, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a une quantité importante de camions qui sont en train de charger. Il y a d'autres même qui sont déjà à Pogo en préparation pour descendre sur nos différents ports.
D'après les prévisions de la Banque africaine de développement, les revenus de la reprise des exportations constituent un coup de pouce pour l'économie malienne qui verra sa croissance chuter à 2,1% en 2022 contre 3,2% en 2021 à cause de l'impact des sanctions de la CEDEAO et des effets de la guerre en Ukraine.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
En Guinée équatoriale, le président de la Cour suprême, David Nguema Obiang Eyang, a été démis de ses fonctions par un décret présidentiel. Le magistrat a reconnu avoir reçu un pot de vin de 100 millions de francs CFA, a tweeté Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président et fils du chef de l'État. Sur le contexte et les enjeux de ce limogeage, Mohamedou Houmfa s'est entretenu avec le journaliste Fabien Essiane, basé à Malabo.
L'affaire remonte à l'an dernier, lorsque les populations de Malabo découvrent dans les supermarchés Santi la présence des produits périmés. Mais la date de péremption avait été modifiée par l'entreprise Santi. Les stocks de marchandises qui n'étaient pas écoulés, la date de péremption avait été modifiée et ces produits étaient revendus. Il faut relever que Santi, c'est la première grande enseigne espagnole installée en Guinée équatoriale, dans les villes de Malabo et Bata. Le gouvernement se saisit donc de cette affaire. Après vérification, il est donc avéré que ces produits étaient périmés. On interdit à ce centre commercial espagnol installé à Malabo de vendre de nouveau les produits. La justice est saisie de l'affaire. Elle scelle les supermarchés de Santi, le temps de clarifier la situation. Les responsables de Santi engagent donc des négociations avec la Cour suprême et la justice pour que la sanction soit levée. On soupçonne donc le président de la Cour suprême d'être donc complice.
Comment est perçu à Malabo le limogeage du président de la Cour suprême? Est-ce que c'est vu comme une volonté de lutter contre la corruption?
Il se dit à Malabo que c'est de la poudre aux yeux, c'est la poudre de perlipimpin. Lorsqu'on regarde le dernier classement de Transparency International, la Guinée équatoriale est classée 17e parmi les pays les plus corrompus au monde. C'est un pays qui est gangréné par la corruption à tous les niveaux. Tant que ça n'a pas un impact direct sur la population, ça n'a vraiment pas d'importance, ça n'a pas d'influence. D'ailleurs, le coût de vie est toujours aussi cher. Ce qui intéresse les Équato-Guinéens dans les rues de Malabo, c'est ceci va nous apporter quoi? Ça va changer quoi dans notre vie?
Comment expliquer donc la décision des autorités de Malabo de limoger le président de la Cour suprême?
Ceci renferme un peu les enjeux qui commencent à se dessiner. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, ce sera en 2023. Ça approche à grands pas. Donc, les manœuvres ont commencé. Il est probablement question pour l'homme fort de Malabo, au Benjamin Bazogo, de nettoyer l'establishment politique et administratif équato-guinéen en vue de préparer l'élection présidentielle.
Est-ce que ce limogeage pourrait avoir un impact sur les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire? Rappelons qu'il y a d'autres magistrats déjà inculpés dans le cadre de cette affaire.
Aucune incidence. Le pouvoir judiciaire, il est noyé dans le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, il est au-dessus de tous les autres pouvoirs en Guinée équatoriale. Ça, c'est dans les faits. Mais dans les textes, on vous dit il y a séparation de pouvoir. Mais en réalité, il n'y a aucune séparation de pouvoir.
Fabien Essiane, journaliste joint à Malabo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vingt-trois morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan du drame du 24 juin à Nador, où près de 2000 migrants ont essayé de franchir illégalement la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. C'était du jamais vu. Notre correspondant Robin Dussen s'est entretenu avec des témoins et des survivants.
Les images ont fait le tour du web. Des dizaines de migrants allongés au sol, couverts de sang. Certains sont blessés, d'autres inertes, hagards ou simplement morts. Des jeunes pour la plupart originaires du Soudan et d'Afrique subsaharienne, encerclés par les forces de sécurité marocaines devant la barrière de Melilla et attendant leur refoulement. Adil, un érythréen de 22 ans, témoigne après des heures de bus. Il réalise qu'il a été refoulé dans le Grand Rabat, à plus de 500 km au sud-ouest de Nador.
Les autorités nous ont amenés là, mais je ne sais pas où ça se trouve. Aucune idée du lieu. Avec mes amis, on a posé la question, mais je ne connais pas cet endroit où on nous a déposés.
Refouler les immigrés le plus loin possible ou parfois les lâcher sans eau en plein désert peut arriver et selon Adil, c'est souvent accompagné d'un passage à tabac.
Moi personnellement, j'ai été frappé dans l'après-midi du 24 juin. Les policiers marocains nous ont battus, nous les migrants, avec une grande violence. Oui, c'était vraiment très violent. J'ai reçu des coups de matraque.
Son ami Mohamed Hamed, lui aussi érythréen, affirme avoir perdu connaissance pendant 4 heures suite des coups. Les deux jeunes sont aujourd'hui sans nouvelles de plusieurs amis qui ont été interpellés par la police. Mohamed Hamed réfute par ailleurs les accusations de réseau de traite d'êtres humains.
J'ai entendu sur plusieurs chaînes de télévision marocaines que ce qui s'est passé à Melilla a été orchestré par des mafias. Non, c'est pas ça. Je suis un simple immigrant érythréen qui recherche un pays sûr. J'ai fui la dictature militaire et le service militaire en Érythrée. Nous ne sommes pas de la mafia, nous sommes des migrants. L'État marocain se trompe en disant ça.
Surnommé Vendredi Noir, le 24 juin restera gravé à jamais dans les mémoires de ces candidats à l'immigration clandestine. Rodrigue, un Camerounais de 38 ans.
Si vous avez décidé de prendre des cailloux, des bouteilles, des bâtons pour aller montrer l'image en pleine journée aux autorités, vous allez voir ce qu'ils vont vous montrer. Tout est bouleversé. Quand on dit on ne fait pas la force avec un gouvernement, et ils sont prêts à vous tuer et ils sont prêts à garder tout ce qui est compris.
Et si la majorité des migrants a été refoulée, 70 vont devoir répondre devant la justice marocaine. La moitié des exilés sont accusés de trafic d'êtres humains et rassemblement armé. L'autre moitié va comparaître pour des délits. Rendez-vous pris les 12 et 13 juillet, mais deux enquêtes sont déjà en cours en Espagne. Robin Dussen à Nador et Berkane pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloulia, à la mise en onde de Michel Joseph et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.